Gidiganjiri Nemato
Bonjour et bienvenue dans votre podcast 1000 paroles, une humanité. Aujourd'hui, nous avons la chance de donner la parole à Hawa Camara, assistante sociale de formation, épouse, mère, aidante familiale et cofondatrice de l'association Seconde Souffle, qui soutient et accompagne les aidants familiaux. Hawa est la maman d'un fils épileptique et polyhandicapé. Elle a choisi de transformer son expérience personnelle en action. Elle a publié un livre où elle raconte son parcours d'aidante et a créé une crèche inclusive qui accueille à la fois des enfants valides et des enfants en situation de handicap. Au fil de cet épisode, Hawa partagera avec nous son quotidien, ses défis, ses émotions, mais aussi ses victoires et ses inspirations. Un témoignage puissant pour tous ceux qui accompagnent un proche et une source d'encouragement et de motivation pour chacun d'entre nous. Installez-vous confortablement et écoutons ensemble le récit d'Hawa Camara. Bonjour Hawa.
Bonjour Zainabou.
Donc, qui est Hawa Camara?
Je suis Hawa, j'habite le département des Yvelines. Je suis la maman de trois enfants, trois garçons. Je suis engagée depuis plusieurs années dans le champ social et associatif. Je conçois et j'anime des projets, des formations, récemment une conférence gesticulée autour de mon histoire familiale et professionnelle. Je peux dire que je suis quelqu'un de curieuse, de sensible et toujours à la recherche de sens dans ce que je fais. Et je suis ravie d'être avec toi là ce soir.
Merci Hawa en tout cas pour cette brève présentation. Je te prends au dépourvu parce que là tu es venu assister au rendez-vous de l'histoire. Donc tu es sans doute occupé avec les spectacles que tu dois présenter. Donc sans nous attarder trop, je vais juste te poser les questions essentielles qui nous amènent ici aujourd'hui autour de ce podcast. Hawa, vous avez publié un livre qui s'appelle « Tiroir à bonheur ». Vous pouvez revenir un peu sur cet ouvrage?
Oui, alors en 2020, j'ai publié mon premier livre intitulé « Le tiroir à bonheur ». Ce titre, en fait, fait écho un peu à tout ce qui, dans mon parcours, m'a aidé à surmonter certaines épreuves. En fait, c'est un livre qui a été édité par les éditions S-Active et je l'ai construit un peu avec un fil rouge qui va aller de mon enfance jusqu'à mon parcours professionnel et puis l'arrivée de Yanis, mon fils qui est né en 2009 et qui est né avec d'importants problèmes de santé. C'est un jeune qui a un polyhandicap assez important. Et que ce projet, pour moi, c'était de questionner aussi bien le parcours migratoire de ma mère que le travail social dans lequel je me suis engagée par la suite en devenant assistante sociale. Mais après sa naissance, le rapport avec le monde hospitalier, avec le handicap et avec une notion qu'on appelle l'aidance. Parce que suite à sa naissance, je suis devenue une proche aidant ou un aidant familial.
D'accord. Juste pour introduire une question liée à l'arrivée de ce bout de chou, de ce trésor, je vais juste lire un petit passage pour introduire juste l'arrivée de Yanis. D'accord ? Bientôt, les pleurs de Yanis retentissent dans la salle d'accouchement. La sage-femme le pose sur mon ventre. Yanis semble être attentif à mes battements de cœur et à ma voix. Fred est là, à mes côtés, et nous entoure de ses bras. Yanis est là, paisible, il est beau. La sage-femme approche Yanis d'un de mes seins. Il se dirige naturellement vers lui et commence à téter. De temps en temps, je l'aide à remettre mon mamelon dans sa bouche quand celui-ci glisse. Après les premiers soins et la séance d'habillage pour Yanis, nous sommes aménagés dans notre chambre. J'échange un peu avec Fred. Il nous embrasse et rentre se reposer avant de récupérer Liam chez Nathalie. J'observe Yanis qui s'est assoupi dans son petit lit. Il est magnifique. Je m'endors à mon tour comblé. Hawa, vous étiez comblé. Ça se voit que vous étiez vraiment comblé. Mais dites-nous, vos premières réactions et émotions face à la nouvelle réalité, c'était comment?
En fait, le passage que tu viens de lire, c'est vraiment l'arrivée de Yanis suite à l'accouchement. Après, c'est vrai qu'un accouchement, bah, parfois ça peut se passer bien, parfois c'est un peu plus compliqué. Selon qui on est, on ne vit pas les choses de la même façon, hein. Je me rends compte maintenant que je suis maman que finalement, sans parler de handicap, c'est une période qui peut être particulière et nous rendre aussi vulnérables. Et là, en fait, ce qui s'est passé quelques heures après, c'est qu'Yanis a commencé à convulser. On pensait au début que c'était des trémulations, donc c'est un terme donné quand des enfants vont avoir des petits tremblements. Et le médecin a pensé, le pédiatre, que c'était lié à un manque de calcium suite à une prise de sang qui lui a été faite. Et en fait, quelques temps après, il a refait ses mouvements. Et là, on nous a dit que c'était des convulsions. Et il a été transporté d'urgence dans un autre hôpital où là, on s'est rendu compte que Yanis avait des crises d'épilepsie qui, au fur et à mesure des jours, se sont aggravés, se sont multipliés et on a su aussi très vite qu'il était pharmacorésistant aux médicaments. Ça veut dire que malgré les médicaments qui nous ont été administrés, les crises ont continué. Et c'est comme ça, tout doucement, tout en douceur et avec la présence de ces crises, on ne savait pas à l'époque, mais qu'on rentrait tout doucement dans le monde du handicap.
Oui, ça se voit que ça a pris des étapes dans ce rôle en fait, totalement nouveau pour vous. Comment avez-vous pu trouver vos repères?
Bah, pour trouver nos repères, ça a été long, hein. Ça a été par étapes, ça a été en fonction des diagnostics qui se posaient au fur et à mesure. On n'a jamais eu de réel diagnostic d'ailleurs par rapport à ce qu'avait Yanis. On a souvent parlé d'encéphalopathie d'origine inconnue. Du coup, ça a été par étapes. Plus il grandissait, plus on voyait l'ampleur de ses difficultés. Il ne tenait pas bien sa tête, il était très mou, ce qu'on appelle l'hypotonie. Il avait du mal à fixer le regard, on ne savait pas trop comment il voyait du coup. Enfin, plus il grandissait, plus bah, quand les enfants de son âge pouvaient s'asseoir, lui, c'était pas le cas. Et puis plus on avançait dans les âges, plus les écarts se faisaient sentir. Yanis est un enfant polyhandicapé, du coup, qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui a du mal un peu à tenir sa tête, qui vocalise et qui a des fous rires vraiment communicatifs, mais qui est complètement dépendant et pas autonome. Donc, c'est vrai qu'un enfant qui n'a très peu d'autonomie va avoir pour conséquence qu'il faut lui trouver un lieu d'apprentissage, un lieu d'éducation en plus de ce qui se passe à la maison pour qu'il puisse continuer à faire des apprentissages et à grandir sereinement. Donc la grosse difficulté, ça a été de trouver déjà un établissement spécialisé. D'abord en externat une bonne partie de son enfance, puis en internat maintenant qu'il est ado, hein, il part le lundi, il revient le vendredi. Ça a été s'adapter aussi à son alimentation. C'est un enfant qui ne peut pas mâcher, donc il mange mixé. Il boit de l'eau gélifiée parce que sinon il peut faire des fausses routes. Il a régulièrement des opérations parce que son corps se déforme. Il est incontinent, donc du coup il a des couches et il a un gros appareillage qui lui permettent bah, d'être installé le mieux possible, que ça soit à son lit avec un matelas coque là qui vient d'être retiré parce qu'il a été opéré du dos, il a une arthrodèse, mais également dans sa douche parce qu'on a aussi un chariot douche qui permet de nous aider dans les transferts. Ainsi qu'un lève-personne, comme voilà, en grandissant, il prend du poids pour pouvoir le transférer en toute sécurité.
D'accord. Le mot aidant, quand on dit une personne est aidante, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ah ouais.
Alors, Zanabou, le mot aidant, moi, c'est vrai que quand Yanis est né, c'est un mot que j'avais jamais entendu parler. Vraiment, je ne connaissais pas du tout ce mot. Et puis, petit à petit, à force de lire, d'écouter parfois quelques podcasts, et surtout une émission de radio où une personne parlait, j'ai entendu pour la première fois ce mot aidante. Et là, je me suis aperçu en fait que c'était un mot qui était déjà plein de sens et qui avait même une définition en fait. Dans cette définition, en fait, on parlait de personnes qui étaient non professionnelles, donc en l'occurrence là, moi en tant que maman, qui vient en aide pour partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage. Et que ce terme précisait vraiment que cette aide, elle pouvait prendre des formes multiples, qu'elle soit permanente ou non, mais c'était des soins d'accompagnement, les démarches administratives, la coordination des soins, une vigilance permanente. Yanis qui faisait beaucoup de crises, par exemple, il fallait vraiment être attentif à ce qu'il soit toujours en sécurité. Ça peut être un soutien psychologique, ça peut être une aide à la communication, à donner des médicaments. Enfin voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la définition qui était un peu proposée, eh ben, c'est tout ce qu'on va faire pour pouvoir accompagner au plus proche notre proche aidant. C'est vrai que maintenant on emploie plus le mot de proche aidant parce que on s'aperçoit que même si dans plus de 80% c'est un membre de la famille qui va aider son proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie, il y a aussi des fois des voisins ou des amis. C'est pour ça on parle plus de proche, de proximité. Mais avant, on utilisait beaucoup le mot de aidant familial parce que en général, ça se passe souvent dans les familles. Donc c'est vrai que quand j'ai entendu ce mot et que j'ai vu qu'il y avait une définition, je me suis dit bah forcément peut-être quand pour être accompagné, ça serait peut-être un peu différent à partir du moment où on se reconnaît nous-mêmes aidant. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé parce que le fait que moi je me considère à un moment aidante et que je m'identifie, bah là, ça vient évoquer le fait que je ne suis plus simplement que une maman et que c'est plus forcément que naturel parce que c'est mon fils, parce que voilà, on peut avoir un enfant, un mari ou un proche qui est en situation de difficulté et de se dire bon, c'est naturel, c'est mon proche, sauf que c'est pas si naturel que ça. Ça vient toucher à la relation d'aide, cette relation qui peut parfois s'abîmer, qui peut parfois nous mettre nous-mêmes en difficulté en tant qu'aidant parce qu'on peut être épuisé. Et c'est là que j'ai vu que bah, c'était important de prendre soin en tant de soi en tant qu'aidant pour pouvoir tenir sur la longueur. Après, prendre soin de soi, c'est un mot un peu valise parce qu'on ne sait pas ce qu'on met dedans. Hein. On est tous différents par rapport à ça. Pour certains, c'est être écouté. Pour d'autres, c'est pouvoir dormir. Pour encore d'autres, c'est pouvoir souffler ou refaire des choses qu'on faisait auparavant qu'on ne fait plus. Par exemple, aller au cinéma, faire des courses en toute tranquillité, pouvoir même concilier sa vie pro et sa vie perso sans avoir une charge mentale ou une impression de tout le temps courir. Et c'est vrai que prendre soin de soi comme on est aidant, quand on est aidant, c'est quand même un vrai challenge parce que c'est pas si évident que ça. Et identifier et trouver de l'aide, bah, c'est pas forcément aussi évident que ça.
D'accord. Alors, je vois que tu as empiété un peu sur mes questions. Là, c'est une bonne chose, c'est qu'on est dans le truc. Parce que là, tu as parlé de la partie invisible quand on est aidant. Donc, ce besoin-là. Tu as aussi parlé d'écrire un peu une journée type en tant qu'aidant. La journée type, quoi, les activités à faire, mais aussi cette partie invisible qu'on vit en tant qu'aidant. Comment arrivez-vous à gérer vous, Awa? Comment arrivez-vous à gérer l'équilibre entre le besoin de votre fils et les besoins aussi de votre famille, des vôtres?
Bah, l'équilibre, il est toujours en mouvement, en fait. C'est un éternel questionnement, en fait. Il y a l'équilibre avec ses frères avec ses frères dans la fratrie, l'équilibre pour avoir une vie professionnelle, moi, bon, en tout cas, j'ai voulu la conserver et en même temps pouvoir me rendre disponible quand il est souffrant, quand il y a des hospitalisations, quand son établissement est fermé, trouver un équilibre parfois aussi dans son couple, trouver un équilibre au niveau des finances, parce que c'est pas forcément évident, il y a des aides qui existent, mais qui prennent pas forcément tout en charge. Donc je trouve que l'équilibre, il est sur un fil en fait, c'est que il y a parfois où ça roule. C'est bon et on arrive à avoir une vie à peu près ordinaire. Et cet équilibre, il est très fragile. Et quand ça arrive, il faut pouvoir se réadapter, parfois se suradapter. Et c'est ça qui peut créer sur la longueur aussi un épuisement.
On propose à nos auditeurs d'écouter un peu de la musique avant de continuer notre émission.
Come on back, peaceful.
Easy now.
I'm gonna be free or die.
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are gonna.
can feel it in my bones.
You have made it 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom?
Paratum.
Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. I'm waiting through muddy waters. You know I got a made up mind, and I don't mind if I lose any blood on the way to salvation, and I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on.
Harriet, welcome to the Underground Railroad.
Merci beaucoup à nos auditeurs de rester pour écouter le récit de la Wakamara. Voilà. Comment faites-vous pour rester émotionnellement forte dans la période où tout semble s'accumuler? La maman est là, la professionnelle, celle qui doit gérer son foyer, il y a beaucoup de choses. Comment faites-vous pour rester émotionnellement forte face à toute cette charge?
Je pense que le fait d'être aidant, ça a un impact, de toute façon, sur le bien-être hein, émotionnel et mental, comme tu dis. Être aidant, c'est souvent faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Et c'est vrai que ça peut créer une surcharge mentale. Hein. On doit tout le temps anticiper, on doit être vigilant, organisé. Au niveau émotionnel, parfois, on a un sentiment d'impuissance hein, quand les médicaments ne font pas effet, quand notre proche est douloureux. Ça peut être aussi de la fatigue. Et puis, il y a des sentiments qui sont un peu ambivalents. Il y a de l'amour hein, pour notre proche, mais parfois aussi de la culpabilité, de la frustration. On peut aussi se sentir seul. Et petit à petit, parfois, on peut aussi s'isoler socialement parce que, voilà, déjà, on n'a pas le temps et de l'énergie pour nous-mêmes. Donc, des fois, on préfère rester chez nous plutôt que de sortir et prendre du temps aussi pour nous si on a aussi un relais, parce qu'on n'a pas forcément un relais pour prendre en charge notre enfant quand on n'est pas là. Après, ce qui vient peut-être des fois équilibrer, c'est le sentiment qu'on a d'être utile, d'être proche de notre proche, de transmettre aussi des choses, que ça soit aux autres, dans le cadre de mon activité professionnelle par exemple, ou de mon association qu'on a co-créée avec d'autres aidants, c'était chouette de pouvoir aussi de se dire que l'expérience qu'on a, elle peut servir à d'autres, et ça peut aussi renforcer des valeurs qu'on a humainement, quoi. C'est vrai que moi, le fait de... Souvent, on me dit, oui, Awa, t'es forte, tout ça, et c'est quelque chose que j'ai du mal à prendre forcément pour moi, parce que l'heure ou l'effet qui se coule de t'es une femme forte, c'est que du coup, pour des aidants à qui on va souvent dire ça, ça peut aussi faire des dégâts dans le sens où la personne, si on la visualise comme ça, on va peut-être pas être là pour elle quand elle a besoin, ou où elle-même va pas se sentir légitime à demander du soutien parce qu'autour d'elle, tout le monde se dit « c'est bon, tu gères, il n'y a pas besoin ». Donc, c'est un peu un cercle vicieux de se dire « oui, je suis une femme forte ». Ou de... Et puis, les personnes qui disent ça parfois aussi, quand on a une écoute, on a le bon retour qu'il nous faut à ce moment-là, quand à un moment, on dit « non, je ne suis pas forte, là, je suis triste, je suis vulnérable, j'ai besoin d'aide, j'en peux plus ». Des fois, les gens ne savent pas trop comment répondre aussi à ça. Le fait de nous mettre dans la case forte, ça permet aussi parfois de ne pas répondre à nos besoins et puis à nous de ne pas les exprimer, en fait. Donc, je sais pas si émotionnellement, tout ça, je suis si forte que ça. Par contre, je pense qu'à chaque fois, j'ai réussi à trouver de l'aide quand j'en pouvais plus, à mettre en place des choses pour que ça m'allège, par exemple des aides à domicile, quand on pouvait avoir une aide de la maison départementale du handicap qui s'appelle la PCH, la prestation compensation handicap, qui nous permettait d'avoir quelqu'un à la maison. C'est lever le pied au niveau professionnel parfois, c'est ces dernières années, faire en sorte que Yannis ait une place plus en internat qu'en externat pour que les transferts se passent en sécurité quand il est pris en charge là-bas. Et quand il est ici avec nous, de faire en sorte que notre logement soit adapté, qu'on ait le matériel adéquat et tout ça. Tout ça vient peut-être aider à trouver un équilibre qui fait que y a des moments moins fatigants que l'autre. Mais comme on disait tout à l'heure, je trouve que c'est un équilibre très fragile à maintenir sur la longueur, en fait.
Là, Awad, c'est bien que tu en aies parlé parce qu'il y a aussi le regard de la société. On est tout le temps regardé, on est tout le temps jugé, voilà. Est-ce que vous vous êtes senti une fois, vous avez senti le devoir de vous justifier du rôle que tu as en tant qu'aidante pour ton fils face à la société? Est-ce que tu t'es senti un jour que tu dois te justifier, quoi, par rapport à ce rôle que tu as pour ton fils?
Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup d'aidants sont perçus comme courageux, dévoués, mais la reconnaissance concrète, elle est plus compliquée que ça soit sur les droits, les aides financières, le répit ou un statut qui est clair. Le rôle, il reste quand même invisible, même si on est plus de 11 millions d'aidants. Et c'est comme si, en fait, la responsabilité, elle est un peu normalisée, comme si on attend de nous qu'on prenne en charge, mais sans trop se plaindre. C'est normal d'aider, c'est une preuve d'amour, ce qui peut culpabiliser les aidants. Et c'est très genré, en fait. C'est beaucoup d'aidants sont des femmes, aussi. Et c'est vrai que cette idée de prendre soin, que c'est un devoir moral ou familial au détriment de sa santé, ça persiste encore. J'ai quand même eu pas mal de gens bienveillants autour de moi pendant tout ce parcours et j'ai rarement été jugée. Par contre, ça va plus se passer dans des décisions qu'on doit prendre. Par exemple, est-ce que je dois le mettre à l'internat ou pas? Si on n'est pas certain du choix qu'on veut faire, on peut ressentir déjà nous-mêmes de la culpabilité, mais le regard des autres, si jamais on nous dit « bah non, mais quand même, c'est ton fils, il faut qu'il soit près de toi, etc. », si tu n'as pas fait le choix avant, pour les raisons qui te concernent, c'est des choses qui peuvent venir un petit peu te perturber. Pareil si de temps en temps je le laisse à l'IME pour pouvoir souffler. Il y a beaucoup de culpabilité déjà interne, mais c'est vrai que si les personnes nous questionnent sur ça, ça peut un peu ébranler. Mais concrètement, Zainabou, j'ai quand même souvent des regards bienveillants sur la situation qu'on vit. Et c'est plus par contre quand tu as le fauteuil roulant et tu vas dans les magasins, le regard posé sur toi, parfois il peut être compliqué à gérer. Quand tu vas dans un restaurant et on te dit qu'on ne peut pas mixer la nourriture et que limite il n'y a pas de mixeur alors que tu es dans un restaurant. Quand les endroits ne sont pas adaptés, que tu as des escaliers, quand tu n'arrives pas à trouver des places pour te garer. Enfin voilà, je trouve que moi je galère un peu plus quand c'est l'espace public parce que franchement pas tout est adapté. Et symboliquement, c'est vrai qu'un enfant comme Yannis, qui est lourdement handicapé, on le voit pas forcément dans l'espace public. Du coup, quand il sort de cet établissement et que nous, on a notre vie un petit peu lambda avec ses frères, bah oui, il faut un peu assumer le regard des autres, pouvoir répondre aux questions quand il y en a. Et je vois dans les caisses, des fois, des personnes qui vont retourner leur regard en se disant « je l'ai pas vu, je reste à ma place ». Donc ça demande de toute façon d'aller vers les autres et de faire respecter ses droits quand ils ne sont pas respectés.
D'accord. En tout cas, merci Awa pour cette sincérité et l'ouverture que tu nous donnes aujourd'hui. Avant qu'on parle un peu de l'organisation et de vos ressources, on va essayer un peu de lire un passage qui a attiré mon attention, moi personnellement, dans le livre. Là, vous parlez du syndrome de West. On va y revenir un peu. Et si tu me le permets, je lis juste pour nos auditeurs. Plusieurs semaines d'espoir, de désespoir, de réflexion, de prière, de rencontres, d'échanges, d'explications, de dossiers administratifs, de fatigue, de médicaments, plusieurs mois où le temps s'est parfois arrêté, où les mots adaptabilité, impuissance, patience, sens des priorités, handicap ont pris insidieusement leur place. Le syndrome de West est rentré dans notre vie. On apprend à le connaître tous les jours, un peu plus, via Internet, via les médecins, via les rencontres, via Yanis. Maintenant, il fait partie de la famille, de notre quotidien, de notre vie. Je ne sais pas quelle sera l'évolution, le devenir, l'avenir de Yanis, mais ce que je sais, c'est que je l'aime. Ce passage, moi, ça m'a touchée personnellement. Awa, je rebondis sur ça pour juste que tu mets l'accent sur les réactions des gens. Parce que souvent, comme on a eu l'occasion une fois d'en parler, les gens disent elle est forte, elle est courageuse, elle a sacrifié sa vie pour son enfant, elle est devenue aidante pour son enfant. Mais avant tout, les gens oublient que avant le rôle de l'aidante que tu joues, tu es une mère. En fait, tu es une mère. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, en fait, aux réactions des gens?
Oui, je pense que des fois, on peut avoir tendance à globaliser. C'est comme quand on parle d'un enfant handicapé. Avant d'être handicapé, c'est d'abord un enfant. Avant d'être aidante, t'es une femme, t'es une mère. Et je pense que c'est, oui, d'être vigilant parfois aussi à ne pas mettre toute la personne dans une case. C'est plus ça, pour pouvoir extraire un petit peu toute notre complexité et le fait qu'on a plusieurs rôles et plusieurs choses à vivre dans notre parcours d'humain, quoi.
Ok. Et sur les ressources, peux-tu revenir un peu sur les personnes, les structures qui ont été là à vos côtés, vous accompagner? Je parle bien sûr de la famille, des amis, mais aussi d'autres structures qui étaient là, qui vous ont accompagné durant cette période difficile, on peut dire.
Oui, alors les ressources, elles ont évolué aussi avec le temps, avec l'âge de Yanis et avec aussi nous, notre connaissance un petit peu de l'environnement et de l'écosystème du handicap. Donc du coup, c'est vrai que tout petit, on a d'abord eu les hôpitaux. Hein. On n'a pas eu toujours les mêmes hôpitaux et les mêmes professionnels. Donc le fait d'avoir pu changer d'équipe quand il le fallait, ça nous a beaucoup aidé. Puis on a eu un CESAD, donc une structure qui accompagne les familles et les enfants au plus près, à domicile, et qui peuvent proposer des rééducations comme de la psychomote, de l'orthophonie, tout ça. On a pu également avoir un EEAP, donc un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. C'est l'établissement où Yanis est actuellement. Mais avant, on a testé d'autres structures. Il y a eu des kinés, il y a eu aussi des aides à domicile qui sont venues à maison, qui sont devenues des amis. Enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont gravité. La crèche qu'on a créée avec mon ami Yassine Maïmounaba, où au début, Yanis a pu un petit peu passer un petit peu de temps. Donc voilà, petit à petit, il y a eu pas mal de choses qui sont mises en place et au niveau des soins, et au niveau de ses rééducations, et au niveau de sa sociabilisation. Et puis après, moi, j'ai pu aussi me rendre compte que le fait qu'il y ait des campagnes, des fois de sensibilisation, des témoignages d'autres aidants. J'ai été dans une association aussi, membre de l'association Camille et ses amis, qui m'a permis de rencontrer d'autres familles qui avaient les mêmes questionnements ou difficultés que nous, ça aussi, ça nous a aidé. Enfin voilà, tout ça a fait que notre parcours, qui n'est pas encore terminé, a pu parfois être un peu plus paisible. Et en tout cas, on a pu trouver des réponses. Et aussi, dans les structures qui ont jalonné nos chemins, il y a les maisons départementales du handicap, où on a pu faire des dossiers qui nous ont permis aussi d'avoir ou des financements, parfois pour du matériel, en plus du 100% de la sécurité sociale, ou aussi des aides qui nous ont permis, par exemple, quand je n'ai plus travaillé à sa naissance, d'avoir une aide qui s'appelle l'allocation éducation enfant handicapé, qui m'a permis d'être présent pour Yanis le temps qu'on trouve des solutions prises en charge pour lui et qu'il s'équilibre au niveau de son épilepsie.
D'accord. Awa, je vais juste parler un peu des liens de Yanis avec sa fratrie, avec ses frères Liam et Soren. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces relations qu'il a avec ses frères ?
Bah écoute, alors Yanis, il a deux frères, un grand frère qui a maintenant 20 ans et un petit frère qui a maintenant 13 ans. Yanis a 16 ans maintenant. Comme ils n'ont pas la même place dans la fratrie, ils ont vécu les choses de manière un peu différente. Quand Yanis est né, Liam avait 4 ans. Il a pu être avec nous parfois à l'hôpital, vu les difficultés que nous on pouvait rencontrer, et mettre en place un lien particulier avec son frère de grand frère, où il veille beaucoup sur lui. Et Soren est plus petit, donc lui il a pris sa place, hein. Il n'y a pas de souci, mais que du coup il a un rapport aussi très bienveillant, très protecteur, mais oui, il a pu l'intégrer un peu plus dans ses jeux, dans des questionnements, dans des choix. Ils ont un peu des c'est un peu différent selon leur personnalité, mais on sent qu'ils ont eu très vite se sentir un peu dans la responsabilité, dans la disponibilité, dans la proximité, et assez, on va dire, mature sur le regard des autres, le regard qu'ils portent sur la société, et peut-être parfois un sentiment alors c'est pas d'injustice, mais de se dire peut-être que Yanis, s'il n'avait pas été handicapé, notre fratrie, elle aurait été un peu plus fofolle. Souvent Liam me dit que ça aurait été un petit peu différent peut-être, voilà, je pense que à leur niveau ils sont aussi un peu aidants, et je crois qu'en France, le chiffre, je crois qu'il y a plus de 7000 enfants qui sont des proches aidants et qui, dans certaines familles, prennent vraiment une place dans le soutien, l'aide, les médicaments, les courses, l'administratif, tout ça. Donc, il ne faut pas non plus les oublier, ces jeunes aidants, parce que ça aussi, parfois, c'est vertueux pour plein de choses, mais ça peut aussi être des difficultés pour eux, parfois sur le plan scolaire, parfois sur le plan de la santé mentale, parfois sur leurs questionnements, tout ça.
Donc, je peux dire que Liam et Soren, ils ont des moments de petit bonheur, quoi, au quotidien avec leur frère.
Oui, tout à fait. Hein. Ils ont des moments de complicité, en prenant en compte quand même les difficultés de communication de leur frère, le fait qu'ils soient dépendants. Mais voilà, à leur manière, ils lui font écouter de la musique. C'est même eux qui me disent des fois, mais maman, arrête avec Radio Doudou. Il est grand maintenant, il a 16 ans. Il leur achète des CD ou de rap ou d'autres choses pour bien me montrer que, voilà, même s'il est très dépendant et que ça pourrait être... on pourrait infantiliser certaines choses, de bien le mettre aussi dans l'âge qu'il a réellement, qui est un âge de 16 ans, et où je peux l'habiller comme un grand de 16 ans, lui mettre de la musique comme un grand de 16 ans, lui faire tester des plats comme un grand de 16 ans, pas de le laisser comme si c'était un petit bébé, quoi.
Juste si tu me parlais un peu du déclic, en fait, le déclic qui vous a fait dire, bon, voilà, il faut que je vais agir pour aider d'autres aidants à travers la création de structures qui accompagnent les aidants.
Nous-mêmes, en ayant intégré l'association Kéminé Ses Amis à l'époque, on a vu à quel point c'était agréable et cool de pouvoir parler avec des pères de ce qu'on vivait, tout ça. Puis en 2016, avec d'autres parents aidants, plus là du côté des Yvelines, l'idée c'était de se dire, mais comment on peut faire pour tenir sur la longueur ? Et une des réponses était de se dire, eh ben, il faut qu'en tant que parent aidant, on ait des moments de répit. Donc c'est vrai qu'au début, Second Souffle, l'association que j'ai co-créée avec d'autres parents et que je préside actuellement, c'était beaucoup focalisé sur des moments de parenthèse, avec de la sophrologie, de la cuisine, avec des moments vraiment pour les parents. Et puis petit à petit, on est devenu un petit peu plus costaud dans ce qu'on voulait faire, avec l'arrivée d'une amie qui s'appelle Elena, mais aussi avec d'autres membres de l'association, où là, on a proposé vraiment des actions financées par pas mal, par quelques structures comme le département ou la CAF, pour là proposer des temps de répit où on avait des professionnels qui accompagnaient un groupe d'enfants, mais également des ateliers box, de lâcher prise par lancer de mouvement, de la sophro, enfin voilà, plein d'activités qui permettaient de se dire on peut tenir sur la longueur et d'être aidé, des permanences aussi pour les droits, etc. Donc voilà, les choses se sont un peu construites comme ça, mais l'idée c'était vraiment de se dire comment on peut faire en tant qu'aidant, surtout nous, notre cible c'était les parents d'enfants en situation de handicap, comment on peut faire grâce à une multitude de propositions pour tenir sur la longueur, avoir des réponses concrètes, répondre à nos questionnements et avoir du relais quand c'est possible. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine.
Ok, là, on va plus tarder, on va bientôt terminer. Juste une question qui me tient à cœur. Quels sont vos rêves ou projets pour améliorer la vie des aidants grâce à votre engagement dans la généralité, en dehors de l'association, ouais.
Bah écoute, là il y a pas mal de projets que nous portons, mais en dehors je me dis que c'est important de pouvoir continuer, que les structures proposent des formations gratuites pour mieux comprendre, je sais pas, la maladie, le quotidien ou la posture de l'aidant, qu'il y ait des ressources, que ça soit numérique, des plateformes, des choses comme ça, d'améliorer aussi le soutien financier par des... Je pense aux allocations, aux dispositifs de compensation, de reconnaître vraiment le rôle des aidants comme un travail, de reconnaître le rôle des aidants et d'être conscient que c'est quand même assez invisible et que c'est important de les rendre visibles, qu'ils aient une place officielle dans le parcours de leurs proches, de mieux informer aussi le grand public sur le rôle qu'ils ont. Parce que ça peut aussi éviter leur isolement, de valoriser leur rôle. Il y a des aidants, des fois, qui peuvent avoir accès à des validations d'acquis de l'expérience, mais que voilà, les politiques publiques ou les institutions prennent vraiment les choses à bras-le-corps, quoi, et d'alléger leur charge, quoi, par des services de répit, de relayage, des structures de répit, d'aménager aussi au niveau professionnel, qu'il y ait des congés ou des horaires qui sont plus souples. Ça peut être favoriser le télétravail, simplifier les démarches administratives, enfin voilà, je pense qu'il y a un tas de choses qui sont mises en place, mais qu'il faut continuer à peaufiner pour rendre la vie des aidants plus facile, quoi.
Donc, si je comprends bien, tu vois de l'espoir dans ça pour les aidants.
Oui, après, on est tous des aidants potentiels. Hein.
Ouais,
accompagner un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie ou suite à un accident ou malade, malheureusement, ça fait partie des accidents de la vie ou des difficultés qui peuvent arriver. Donc, plus on va avancer, surtout que maintenant, la prise en charge de la personne âgée aussi a fait des progrès, tout ça, va faire que ça va, les chiffres vont augmenter. Hein. On compte entre 9 et 11 millions d'aidants en France. Il y a un aidant sur deux qui est salarié, un aidant sur une personne sur cinq, voire sur quatre qui est aidant, et les chiffres vont aller de pire en pire. Donc c'est important de se dire qu'on est concerné, plus ou moins proche, mais des aidants potentiels, et que c'est un vrai enjeu de société.
En tout cas, merci beaucoup pour cette franchise et je ne vais pas vous laisser. Je vous donne aujourd'hui l'opportunité de partager un message d'inspiration avec d'autres aidants et aidantes qui se demandent comment envisager l'avenir. Que leur diriez-vous, surtout les aidantes?
Que être aidant, c'est pas seulement aider quelqu'un, c'est aussi apprendre à pas s'oublier. C'est important d'avoir le droit de se dire qu'on est fatigué, perdu ou débordé, et d'essayer aussi de trouver du soutien, prendre soin de soi, mais que voilà, ils ne sont pas seuls, ils peuvent ne pas être seuls et pas porter peut-être ce qui peut des fois s'apparenter comme un poids seul, quoi. Parce que accompagner, c'est pas sacrifier. Et ça devrait jamais rimer avec s'effacer. Mmh. Et moi, c'est vrai que souvent, il y a une phrase que mon associé et ami Maïmouna me dit aussi parfois, c'est tout est changement, rien ne dure. Que voilà, pour devenir ce qu'il n'est pas encore. Non, voilà, tout est changement, rien ne dure, et que parfois c'est difficile, on a envie de lâcher, on est fatigué, mais avec du soutien, de l'aide, d'identifier de quoi on a besoin, tout ça, on peut aussi se relever et continuer, et parfois de pas hésiter aussi à demander à que quelqu'un prenne le relais quand c'est possible. Je sais que ça, c'est dans le meilleur du monde. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'aidants qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'aide, qui rencontrent des grosses problématiques financières, et que c'est pas si simple que ça. Mais de se dire tout est changement, rien ne dure, et que au bout il y a peut-être un peu de choses positives qui vont peut-être arriver, quoi.
D'accord. En tout cas, Awa, c'est toujours un plaisir de t'écouter, de te...
Plaisir partager, voilà. Zinabou. Merci beaucoup de m'avoir donné cette possibilité de pouvoir évoquer ce que c'est les danses, d'évoquer un peu mon parcours, de t'intéresser à cette thématique, okay. Parce que c'est important aussi de mettre un éclairage, de la lumière sur les aidants.
Ouais. Merci infiniment à Awa Camara pour ce témoignage si sincère et émouvant. Son parcours nous rappelle que derrière chaque aidant, chaque famille, il y a une humanité vibrante, faite de courage, de résilience et d'amour. À travers son expérience, nous comprenons combien le rôle d'aidant est exigeant, mais aussi combien il peut devenir une force de transformation, non seulement pour la personne accompagnée, mais pour toute la communauté. À toutes les familles et aidants qui écoutent, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Il existe des ressources, des réseaux et surtout une force immense en vous. Mille paroles, une humanité. Ensemble, reconnaissons, soutenons, valorisons le rôle des aidants dans notre société. Merci, chers auditeurs. Merci aux techniciens de la rue Joseph. Merci encore une fois de plus à notre invité, Awa Camara. À la prochaine.
À la prochaine.
Alors, merci beaucoup, sincèrement.